Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, Mer de Chine, l'autre poudrière. La machine a encore gagné. À Séoul, l'ordinateur AlphaGo a réitéré ce matin son exploit d'hier face au champion du monde de jeux de Go, 2-0. Le match se déroule en 5 manches. Le joueur qui l'emporte dans chacune d'entre elles est celui qui réussit à contrôler le plan de jeu en encerclant avec ses pierres celles de l'adversaire. Le jeu de Go est considéré comme le plus ancien des jeux de stratégie. Il est particulièrement populaire en Chine, en Corée et au Japon. Et il n'est peut-être pas inutile d'en connaître les règles pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du monde. Contrôler des territoires en y plaçant des pions, c'est bien ce à quoi joue Pékin en ce moment, en mer de Chine orientale comme en mer de Chine méridionale. L'armée chinoise investit et aménage des îlots au large de ses côtes pour en faire autant d'avant-postes territoriaux. Et ce, au grand dam des autres pays de la région et de leur principal allié, les États-Unis. L'appétit territorial chinois n'est pas, loin s'en faut, le seul motif d'inquiétude dans cette vaste zone de l'Asie-Pacifique. Une fois de plus, la Corée du Nord vient de pratiquer la surenchère militaire en menant ce début d'année un nouvel essai nucléaire, verbal en promettant des océans de flammes et de cendres à son voisin du Sud et aux États-Unis qui mènent cette semaine des manœuvres conjointes. Alors, mer de Chine, l'autre poudrière, c'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Sophie Boisseau-Durocher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous y travaillez sur les questions de politique et géostratégique en Asie du Sud-Est. Vous avez publié chez Belin en 2011, Cambodge, la survie d'un peuple. Pour, il faut quand même rappeler les ouvrages, même si c'est pas si ancien que ça, Sophie Boisseau-Durocher.
Non, mais il y a des ouvrages plus récents.
écoutez, j'avais retenu. Alors, citez-moi un plus récent, alors.
Non, mais celui sur l'Asie du Sud-Est, en l'occurrence, c'est un ouvrage de référence. Voilà, sur la région.
Bon, bah très bien.
Et les enjeux.
Et ben on en reparlera d'ici la fin de l'émission. Pour discuter avec vous, en tout cas ce soir, François Godemont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le programme Asie et Chine de l'European Council on Foreign Relations, un think tank pan-européen. Vous avez publié, alors chez Odile Jacob en 2012, je ne sais pas si celui-là vous convient, Que vaut la Chine de Mao au capitalisme. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de Radio France à Bruxelles. Il s'agit de Pascal Daillé-Burgeon, bonsoir. Alors Pascal Daillé-Burgeon, je ne sais pas si vous m'entendez, moi je ne vous ai pas entendu me répondre. Alors on va essayer de rejoindre Pascal Daillé-Burgeon, qui est un ancien diplomate qui a été en poste en Corée du Sud et qui nous apportera également son éclairage sur ces crises, en tout cas une de ces crises, notamment la nord-coréenne, qui touche cette région. Alors cette région, on a choisi de l'appeler, François Godemont, mer de Chine, en sachant très bien qu'on serait un peu dans l'approximation géographique. Peut-être que vous allez déjà nous aider justement à repréciser un petit peu de quoi on parle et quand on parle de mer de Chine et si on a raison finalement d'y inclure autant de pays qu'on le fait ce soir.
De façon un peu drôle, pour les Chinois, c'était, comme pour les Japonais d'ailleurs, c'était Nanhai, les mers du Sud. Et quand il y a eu un parti communiste internationaliste en Asie du Sud-Est, dont, si je me rappelle bien, Ho Chi Minh était membre au début, c'était le parti communiste des mers du Sud. Donc, au fond, la mer de Chine, c'est une invention occidentale qui est assez commode, évidemment, pour la Chine ensuite comme appellation, parce que comment mieux démontrer que cet immense espace vous appartient. Mais il y a une mer jaune au large de la Corée, il y a une mer intérieure du Japon, telle que les Japonais veulent l'appeler, et il y a eu même une tentative des Philippines pour réinstaurer l'appellation, si je me rappelle bien, mer des Philippines occidentales. Ça n'a pas duré très longtemps au niveau international, mais enfin ça a été fait. Donc, en un sens, soit on ne travaille pas, si vous voulez, et on souscrit à l'évidence. Et tout ça, c'est chinois. Ça a toujours été chinois et ça sera toujours chinois. Soit on réfléchit un peu.
Selon la façon dont on nomme ces zones géographiques, Sophie Boisseau-Durocher, on se place, comment dire, dans une perspective particulière. C'est-à-dire, on se place derrière un pays ou derrière un autre. C'est-à-dire, si on parle de mer de Chine, de mer du Japon, ça ne dit pas la même chose d'un point de vue politique.
Mais à partir du moment où il n'y a aucune évidence historique indiscutable, évidemment, toute nomination, toute interprétation est politique et subjective. Donc, comme le disait François, mer de Chine, ça correspond tout à fait aux ambitions l'occupation chinoise. Maire des Philippines, les Philippines tentent de revenir dans la course. Maire méridionale pour le Vietnam. Donc les noms ont évidemment un fort sens politique, surtout dans cette région où le conflit est d'abord un conflit d'ordre juridique.
Alors comment est-ce que vous l'appelleriez, vous, cette zone, pour éviter peut-être justement d'être de parti pris ? Sophie Boisseau-Durocher. Difficile. Ou alors François Gonnemont.
Le plus simple, ce serait le Pacifique occidental, bien sûr.
Mais on ne peut pas appeler la mer de Chine du Sud parce que c'est une mer semi-fermée. Donc ce n'est pas un océan. Ce qui pose problème aussi. Donc voilà, ça serait peut-être une mer d'Asie. Et ça serait à trouver, effectivement. Ça serait un bon sujet pour rapprocher peut-être ces pays en conflit.
Ben voilà, on va vous soumettre ce petit travail. Alors on a récupéré Pascal Daillé-Burgeon. Bonsoir, j'espère que ce coup-ci vous m'entendez.
Oui, je vous entends.
Oui, ça y est, vous êtes là. Vous êtes en duplex des studios de Radio France à Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles puisque vous y dirigez le bureau du CNRS. Vous êtes, je le disais, ancien diplomate. Vous avez été en poste en Corée du Sud au début des années 2000. Et puis, vous avez publié La Dynastie Rouge qui raconte l'histoire de la Corée du Nord et de ses dirigeants. C'était publié chez Perrin. Et vous, c'est un ouvrage qui vient tout juste d'être réédité. Alors, on a fait un petit effort de définition géographique pour voir de quelle zone on parlait. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, et c'est une question que je vous soumets à tous les trois, mais je commence par vous, Pascal Daillé-Burgeon. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette vaste zone de l'Asie-Pacifique est une des zones les plus sensibles de la planète, étant entendu que l'autre zone ultra sensible, c'est bien entendu le Moyen-Orient?
Écoutez, pour moi, oui, mais les autres invités se sont déjà prononcés, me semble-t-il. La Corée, en tout cas, est le seul pays au monde qui est coincé entre quatre grandes puissances. Et un proverbe coréen dit qu'elle n'est qu'une crevette coincée entre quatre baleines. Je crois que l'actualité le prouve.
Ils ne se sont pas encore prononcés pour dire s'ils considéraient que c'était une des zones les plus sensibles de la planète. Hein. Pascal Daillé-Burgeon, pour vous, c'en est une, en tout cas.
Entre effectivement la mer Jaune, la mer de l'Est, les mers dont on a parlé tout à l'heure, qui sont toutes sujets de crise, effectivement c'est une zone extrêmement sensible et toutes les grandes.
Alors on a à nouveau perdu Pascal Daillé-Burgeon, ça va être un petit peu compliqué ce soir j'ai l'impression, pourtant vous n'êtes pas dans cette zone-là, vous êtes seulement à Bruxelles, on va essayer de voir comment on peut vous contacter. Sophie Boisseau-Durocher, alors pour rentrer justement un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que, alors je vous repose aussi la question, est-ce que vous considérez que c'est une zone particulièrement sensible et qu'il devient, disons, de plus en plus aujourd'hui?
Alors je dirais que c'est une zone sensible à différents titres, parce qu'il y a effectivement des abcès de sécurité comme la péninsule coréenne, le terrorisme ou les migrations, par exemple, qui sont vraiment des problèmes sécuritaires, mais il y a plus fondamentalement, plus structurellement, l'intégration de la Chine dans l'ordre mondial. Et ça, c'est une question qui n'est toujours pas vraiment réglée et dont les voisins sont les premiers, si vous voulez, à subir les turbulences. Alors, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, mais c'est ça le vrai problème. C'est l'émergence de cette puissance chinoise à une échelle qui est quand même qu'on ne connaît pas, puisque la Chine est un géant. Et cette puissance-là, il va falloir l'intégrer. Comment ça peut se faire, tout en tenant compte de nos intérêts, mais également des visions et des ambitions chinoises?
Est-ce qu'on pourrait dire, François Gonnemont, que parce qu'il y a émergence de cette puissance chinoise et que forcément ça prend de la place, si on veut être un petit peu dans le visuel, ça bouleverse obligatoirement un certain nombre d'équilibres régionaux?
Ah, bien sûr que la montée de la Chine, c'est la grande question pour tous ses voisins et pour d'autres aussi, mais surtout pour ses voisins. Cela dit, c'est pas pour cette raison qu'il y a des conflits territoriaux non résolus, parce que des délimitations non résolues, des revendications inabouties, il y en a plein dans la région. Le Japon n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la Russie ou avec la Corée du Sud. La plupart des États du Sud-Est gardent des revendications entre eux, si vous voulez. Il y a eu une espèce d'abstention des anciennes puissances coloniales quand elles sont parties, en gros. Il y a une abstention de principe des États-Unis sur les questions de souveraineté, qui est quand même pas très commode, puisque en pratique, c'est quand même eux qui ont la maîtrise des mers, qui assurent l'ordre sur le plan stratégique. Alors la Chine a renversé ce qui était cet inconvénient, c'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas grand-chose, on ne lui accordait pas grand-chose, et elle avait, pendant ces décennies d'effacement, perdu le contact avec une bonne partie de ses régions. Elle a renversé ça en avantage, parce que maintenant, au fur et à mesure que sa puissance monte, et la puissance maritime est vraiment le premier fer de lance de ce que fait militairement la Chine, elle regagne du terrain, et elle tarde à négocier, bien sûr. Elle a son jeu et de différer pour mieux sauter.
Est-ce que ce renversement a été d'autant plus facile pour elle que les pays de la région et leur principal allié, à savoir les États-Unis, l'ont laissé faire, en tout cas au début?
Je pense que les États-Unis ont été très longtemps, et aujourd'hui encore, préoccupés de ne pas se laisser aspirer dans un conflit territorial déclenché par un allié junior, disons. En particulier les Philippines, ne parlons même pas du Vietnam qui est hors alliance de toute façon. Et même dans le cas du Japon, ça a mis du temps pour que les États-Unis réaffirment qu'ils étaient non pas solidaires des revendications japonaises, mais solidaires de l'idée que ce que le Japon administre doit pas être contesté matériellement sur le terrain. Une forme de solidarité limitée.
Sophie Boisseau-Durocher.
Oui, je crois que la Chine a joué très finement aussi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée, elle n'a pas tout d'un coup déboulé sur ce terrain-là, elle a déboulé progressivement, par petits pas, par petites touches. Elle a d'abord proposé de la coopération, et cette coopération s'est retournée, au fond, contre les partenaires chinois. Donc, si vous voulez, il y a une stratégie, une tactique d'avancer par petites touches, et aujourd'hui, on arrive simplement à maturation, si vous voulez, on se rend compte qu'il y a tout un système qui était derrière toutes ces petites touches, et quand même une multitude d'actions, d'initiatives ont été prises qui ne justifiaient pour aucune d'entre elles une réponse ferme, mais qui maintenant, ajoutées les unes aux autres, posent problème. Donc ça c'est une vraie question. Et puis quand même caractère de ce théâtre sécuritaire, c'est d'être asymétrique. Il y a quand même une forte asymétrie entre les budgets militaires de la Chine ou ceux des Philippines, du Vietnam ou quoi. Donc il y a, si vous voulez, de toute façon, de facto, une asymétrie qui profite évidemment à la Chine et dont elle joue avec beaucoup d'intelligence.
Mais s'il y a asymétrie, il y a aussi asymétrie entre le budget militaire de la Chine et le budget militaire des États-Unis. Les États-Unis ne pourraient pas avoir le poids suffisant, au moins symbolique, pour dire à la Chine, à un moment donné, il faut arrêter avec ce grignotage de territoires qui, certes, les uns pris séparément des autres ne représentent pas grand-chose, mais quand on les ajoute, ça commence peut-être à faire beaucoup, François Godemont.
Non, parce que le grignotage de territoire, comme vous dites, est fait d'une façon assez habile, progressive, qu'il s'agit souvent d'îlots qu'on élargit, qu'il s'agit de droits maritimes dont on étend la perception, mais vous savez, au nom du droit de la mer, actuellement, il y a de grands dossiers qui sont en attente sur les droits de chacun sur les espaces maritimes. Même la France, par exemple, a une revendication considérable d'espaces maritimes qui est devant la Convention des Nations Unies. Donc les Chinois ont joué en partie ce jeu-là et en partie un autre jeu qui, ce qu'ils font, est quand même relativement contrôlé, très contrôlé.
Contrôlé par qui ?
Contrôlé par eux. Je veux dire, très peu d'incidents ou des incidents limités. Des risques de dérapage ou d'escalade qu'ils ont en gros maîtrisés. Il y a des exceptions, le Vietnam, ça s'est mal passé à plusieurs reprises, justement, le Vietnam est dans aucune alliance. Même avec les Philippines, qui ne sont quand même pas une puissance militaire particulièrement impressionnante, la Chine a fait attention de ne pas se livrer à un test purement militaire. Elle a un test de patience. Et les États-Unis, qui ont dit plusieurs fois que c'était absurde de s'affronter sur des rochers et des îlots sans valeur, essayent absolument d'éviter cette confrontation. Ils ont d'autres dossiers à voir avec la Chine.
Les Chinois savent comment faire pour ne pas aller trop loin, Sophie Boisseau-Durocher.
Oui, mais là, le problème se pose maintenant de la question juridique, parce qu'il y a une revendication chinoise sur cette mer-là. Là, les Chinois prétendent que cette mer de Chine du Sud est une mer chinoise, que la Chine y a des droits historiques inaliénables. Donc, la question, c'est que cette mer qui a été définie par la Convention de Montego Bay en 1982 comme une mer internationale et donc avec un libre passage la circulation. Aujourd'hui, si cette mer devient une mer chinoise de facto, les Chinois ont toute autorité, prétendent avoir toute autorité pour y établir l'ordre qu'ils entendent faire respecter. Et là, ça pose évidemment directement un problème à la puissance américaine, non seulement commerciale, mais également militaire.
Alors dans cette mer de Chine méridionale, il y a notamment l'archipel des Paracels, hein, qui est revendiqué, enfin en tout cas qui est contrôlé aujourd'hui par les Chinois, où alors semble-t-il les Chinois installent petit à petit un certain nombre et de matériel militaire mais aussi des infrastructures pour peut-être amener un peu plus d'habitants qu'il n'y en a aujourd'hui. À quoi elles servent ces îles, à quoi ils servent ces îlots aux Chinois? Est-ce que c'est pour avant tout avoir une présence économique, on va dire, plus importante, parce que c'est un endroit où il y a peut-être des ressources sources halieutiques notamment qui sont fortes, ou bien est-ce qu'on est dans une stratégie de grignotage de territoire qui ne fait que commencer et qui peut amener par la suite à aller voir un peu plus loin, on va dire, pour l'armée chinoise? Comment est-ce que vous voyez ça, Sophie Boisseau-Durocher?
Je pense qu'on est dans une stratégie évidemment de grignotage. Elle a commencé il y a très longtemps et elle continue à se poursuivre. Elle a commencé en 1974, en l'occurrence, quand les Chinois ont occupé les Paracels et ont chassé les Vietnamiens, les quelques garnisons vietnamiennes qui étaient là. La vraie difficulté, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle les Chinois revendiquent cette présence, non seulement c'est pour avoir droit à une zone économique exclusive à partir de ces îlots, et pour y avoir droit, il faut qu'il y ait de la vie sur ces îlots, et donc c'est pour ça qu'ils ont également remblayé et amené effectivement des populations. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 200 à 300 personnes qui vivent là. Et puis, c'est évidemment pour des questions de projection militaire. Mais si vous regardez une carte, tout cela est très inquiétant, puisque finalement, les Paracels sont à égale distance entre la Chine et le Vietnam. Et donc, le Vietnam est évidemment à la portée des missiles éventuels que les Chinois installeraient ou ont installés, comme on l'a découvert récemment, il y a 15 jours.
François Godemant.
Oui, ce qui est difficile à comprendre dans la position chinoise, c'est que ils revendiquent un espace énorme en mer de Chine, mais ils ne disent pas lequel. Ils ne le délimitent pas. Donc leur revendication n'est jamais précisément bornée, donc elle ne peut pas faire l'objet d'une discussion juridique. Ils expliquent aux États-Unis qu'ils ne vont pas militariser la région, mais ils installent dans les derniers mois des batteries sol-air. Ils ont une piste d'atterrissage extrêmement importante, une base navale, sans aucun doute un effort. Je pense que derrière la revendication de l'espace, il y a la maîtrise stratégique des approches de la Chine et le fait petit à petit d'en expulser les États-Unis ou d'en limiter considérablement l'efficacité. Et ça, c'est l'ordre d'après-guerre, si vous voulez, qui change.
Alors, on me dit qu'on a à nouveau récupéré à Bruxelles Pascal Daillé-Burgeon. Je ne sais pas si vous avez entendu la suite de la conversation, mais est-ce que cette façon d'agir qu'a la Chine, notamment en mer de Chine méridionale, elle se rapproche de la façon dont la Chine agit aujourd'hui par rapport au dossier nord-coréen, c'est-à-dire une forme d'ambiguïté avec laquelle on a peut-être un petit peu de mal à comprendre les choses, c'est-à-dire à la fois une Chine qui condamne puisqu'elle rejoint le Conseil de sécurité de l'ONU pour appliquer des sanctions à la Corée du Nord, et en même temps qui reste le principal allié de Pyongyang.
Oui, je pense qu'on peut le dire comme cela. Elle condamne, certes, mais d'un autre côté, elle ne coupe pas l'approvisionnement de la Corée du Nord en pétrole. Donc, somme toute, elle lui permet de continuer à vivre. Alors, s'il n'y a pas de revendications insulaires, il y a quand même des revendications d'ordre, je dirais, historique et mythologique. La Chine, en gros, laisse entendre que tout le nord de la Mandchourie et même la Corée du Nord, en fait, étaient autrefois des territoires chinois et qu'ils n'ont été coréens que finalement par un hasard de l'histoire, mais que la légitimité serait chinoise. Alors, bien entendu, les Coréens du Nord comme du Sud, d'ailleurs, disent l'inverse et ont bon jeu de montrer qu'un ancien royaume coréen contrôlait un espace qui allait jusqu'à Pékin. Les Chinois écartent ça évidemment d'un revers de la main méprisant. Donc, cela semble dire, et certains au Sud l'entendent comme cela, qu'en cas d'intervention de la Chine en Corée du Nord, des fois qu'il faudrait changer de régime ou garder le calme dans ce pays qui s'effondrerait, ben, la Chine aurait une légitimité de revenir dans un territoire qui, au fond, était originellement à elle. Donc on peut retrouver la même chose, parce que ce ne sont pas des revendications extrêmement claires, ce sont des revendications indirectes faites par des professeurs d'histoire, des intellectuels, reprises par des diplomates. Ça ne va pas plus loin, c'est ambigu.
Mais est-ce que la Chine n'a pas davantage intérêt à garder une Corée du Nord qui lui sert peut-être aussi un petit peu de tampon avec la Corée du Sud, plutôt que d'aller jusqu'à absorber ce pays, ce qui la mettrait au contact direct finalement de son rival américain, Pascal Daillé-Burgeon?
Tout à fait, c'est en tout cas la position actuelle, mais avec un régime aussi difficile à saisir que celui qui est en place actuellement en Corée du Nord, on ne peut jamais écarter la chute soudaine du dirigeant. Je ne sais pas, son assassinat par exemple, comment pourrait-on faire, le remplacer par un autre membre de la famille, le remplacer par un général ou une junte qui ne serait pas très légitime? Donc la Chine sans annexer serait là, serait obligée d'être là. Donc il faut bien déjà préparer, on ne sait jamais, une solution au cas où le Nord justifierait une intervention de sa part.
François Godemant.
Je crois qu'on est quand même dans des cas de figure extrêmement différents. En mer de Chine du Sud, il n'y a pas de population, donc il n'y a pas d'accélérateur de conflit. La péninsule coréenne, c'est vraiment une poudrière. Il y a une population nord-coréenne qui est en gros exsangue, peut-être un petit peu moins qu'il y a 10 ans, parce qu'on laisse se développer du commerce informel, notamment avec la Chine. Mais c'est quand même une situation grave. On a un régime qui a prouvé son autonomie et même son indépendance. Je suis assez sceptique sur les risques d'assassinat du numéro 1 nord-coréen. Les trois successifs n'ont pas semblé être les plus faibles dans ce genre de compétition. Et je dirais plutôt que ceux qui étaient autour du cercueil du père de Kim Jong-un, ce qui était photographié par le monde entier, qui portait le, qui avait la main sur la voiture, c'est eux qui sont morts, c'est pas lui.
Voilà, il y a eu des purges.
Une certaine stabilité, une certaine maîtrise. Et donc là, on est dans un jeu qui rassemble beaucoup plus à un jeu européen d'avant-guerre. C'est le pouvoir du faible. Le jeu de bascule qui peut jouer et la façon dont il survit parce que personne n'a vraiment d'intérêt ou bien tout le monde redoute les risques d'une réunification coréenne et les Nord-Coréens le savent très bien, ce qui fait qu'ils continuent à avancer leur pion. La Corée du Nord ne vaut pas, comme disait Guillaume II, un grenadier prussien, si vous voulez, ou une intervention des GI. Aujourd'hui.
Donc vous y voyez en tout cas un jeu autonome des Nord-Coréens aujourd'hui, c'est-à-dire que qui se fait contre l'avis de son voisin chinois.
Sans aucun doute contre l'avis du voisin chinois qui à plusieurs reprises a manifesté son mécontentement, qui a donné des conseils aux dirigeants, qui a eu des interruptions de relations et qui aujourd'hui est quand même entré avec les États-Unis, avec les sanctions à l'ONU, dans un jeu ambigu. Effectivement, il reste ambigu, on pourrait décortiquer la sanction. Mais malgré tout, il est lourd de menaces pour la Corée du Nord parce qu'il veut dire que concrètement, la Chine a le pouvoir d'arbitrer complètement. Elle peut fermer le robinet. Maintenant, personne ne la sanctionnera, bien au contraire, on la prouvera.
Ce qui se passe en Corée du Nord, Sophie Boisseau du Rocher, est-ce que c'est une inquiétude pour l'ensemble des pays de cette vaste région de l'Asie Pacifique ou bien est-ce que ça reste assez localisé à la péninsule coréenne ?
Ah, je crois que c'est très localisé à la péninsule coréenne. Les pays d'Asie du Sud-Est ont d'autres problèmes sécuritaires. Alors je voudrais simplement
revenir... Parce qu'ils ne prennent pas au sérieux cette menace ou...
Ah non, pas du tout. Ils la prennent très au sérieux, mais c'est quand même éloigné. On n'imagine pas quand même que pour l'instant, les missiles nord-coréens puissent arriver jusqu'en Asie du Sud-Est, si vous voulez. Et puis je crois que l'Asie du Sud-Est n'intéresse pas beaucoup Kim, mais je crois que la vraie question, c'est quoi pour les pays d'Asie du Sud-Est, c'est simplement de savoir accepter, si vous voulez, une certaine suprématie ou prédominance chinoise sur ce théâtre-là, tout en ne tombant pas dans un alignement purement chinois, parce que là, ça serait dangereux pour leurs intérêts. Ce sont des pays qui, une région qui a généralement, qui joue de l'équilibre entre la Chine et les États-Unis. C'est d'ailleurs une carte des États-Unis. Mais je crois que ce que demande aujourd'hui la Chine, c'est-à-dire un alignement plus massif sur ses intérêts, même s'ils y gagnent, pourrait poser problème à ces pays-là, à leur autonomie, à leur indépendance, et ça ils l'acceptent difficilement. Donc ils sont dans un jeu qui était très difficile aujourd'hui, parce qu'ils sont évidemment attirés par la spirale ascendante chinoise, notamment sur le plan économique, sur le plan du commerce, sur le plan des infrastructures. Enfin, la Chine est très présente, sur le plan scientifique également, mais en même temps, s'aligner sur cette seule puissance pose problème, parce qu'ils savent pas. Ils savent d'emblée que ce n'est pas non plus, ce n'est pas pour eux ce n'est pas pour eux une solution jouable sur le plan politique. Donc voilà, donc c'est comment gérer l'émergence de ce système sino-centré. Je crois que c'est ce qui est le plus important pour eux aujourd'hui.
Pascal Daillé-Burgeon.
Oui, d'accord, mais la Corée du Nord cherche effectivement à trouver quand même une alternative. Elle a toujours joué au fond Moscou contre Pékin ou inversement. Donc actuellement, le dirigeant essaye de trouver tout ce qu'il peut pour trouver d'autres accords, d'autres appuis, se rapprocher de Moscou. Et il est certain que l'exécution de son oncle il y a trois ans maintenant, qui passait pour le soutien de Pékin, enfin l'homme de Pékin au sein du régime est un signe vis-à-vis de Pékin. Donc essayer de prendre ses distances vis-à-vis d'un régime qui le tient comme économiquement à 90% à peu près. Donc les marges de manœuvre sont extrêmement faibles.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe en Corée du Nord à chaque fois, Pascal Daillé-Burgeon, comme aussi des signes de des équilibres politiques intérieurs nord-coréens ?
Oui, aussi, notamment...
Même si c'est toujours compliqué de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de la Corée du Nord, j'imagine, mais...
Effectivement, les renseignements que nous avons, c'est surtout par les observateurs du Sud, les Américains, mais les essais atomiques, par exemple, les essais balistiques, sont aussi un effet de propagande interne. En fait, on fait exploser un essai atomique, on envoie des missiles, toujours à des dates qui sont très significatives du point de vue nord-coréen, c'est-à-dire à l'anniversaire des dirigeants. On peut donc s'attendre, en général, à chaque anniversaire, à ce qu'il y ait un essai, parce que c'est une certaine forme de plébiscite interne. La population se réunit, applaudit, elle n'est pas obligée de le faire véritablement. Il y a un grand déclenchement nationaliste au moment de ces essais nucléaires ou balistiques. Et donc, effectivement, les menaces internationales ont aussi toujours une logique interne. Le régime se tient grâce à cela un peu aussi. Enfin, en étant agressif, il justifie qu'il y ait un contrôle par l'armée, il justifie d'être un régime, M. Godemont le disait tout à l'heure, prussien d'une certaine manière. Hein. La Corée du Nord, c'est pas un régime qui possède une armée, c'est une armée qui tient un régime, en fait, qui tient un pays. Et donc pour cela, il faut des démonstrations militaires permanentes.
De la même manière, François Godemont, quand on disait tout à l'heure que la Chine savait à peu près manœuvrer pour ne pas aller trop loin, est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui de la Corée du Nord? C'est-à-dire que derrière les provocations, c'est toujours quelque chose de maîtrisé pour que ça n'aille pas jusqu'à par exemple à une intervention militaire contre le programme nucléaire nord-coréen.
Oui, alors c'est pas maîtrisé au point de pouvoir empêcher les Nord-Coréens de faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même une limite. Or, la Chine a d'autres intérêts dans la région. Elle a tout intérêt, par exemple, à s'allier à la Corée du Sud, qui représente peut-être 10 fois la Corée du Nord sous l'angle économique, industriel et influence internationale. S'allier avec elle pour équilibrer le Japon, par exemple, en jouant sur le patriotisme, le nationalisme, l'hostilité au Japon. Les Sud-Coréens sont déchirés à cause de ça et parce qu'ils se disent qu'au fond, c'est Pékin qui tient la Corée du Nord et qu'il faut donc leur donner satisfaction. Donc ça, c'est quelque chose qui équilibre évidemment puissamment l'appui à un régime qui, au fond, sert de glacis protectif encore, malgré tout, et surtout la peur qu'ont les Chinois de ce qui se passerait après, du jour d'après, d'un désordre. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de Coréens en Chine même, particulièrement en Chine du Nord-Est. Alors, il ne faut pas du tout en avoir une image paupérisée. Au contraire, c'est la minorité la plus riche de Chine, industrieux, commerçants, très visible, si vous voulez. Et que si on avait une Corée réunifiée, bah, ces gens-là regarderaient peut-être autant vers la Corée que vers la Chine. Donc, Pékin est complètement déchiré et partagé une partie de ses hésitations, je pense, sont de vraies hésitations et pas seulement un jeu.
Si Pékin hésitait moins, est-ce qu'on pourrait imaginer et décider vraiment aller au bout de sa logique, c'est-à-dire en adoptant des sanctions et les faisait appliquer, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces sanctions soient enfin efficaces? Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de régimes de sanctions qui ont été adoptés ces dernières années et manifestement, ça n'empêche pas la Corée du Nord de continuer à s'armer et à se surarmer.
L'essentiel, c'est l'énergie, d'une part. On a, comme le soulignait Sophie Boissieu-Durocher, pas coupé le robinet du pétrole. En coupant le robinet du pétrole, on met l'économie nord-coréenne à l'arrêt en un mois. Il y a peu de stock. Et la Corée du Nord n'est pas une puissance agricole, mais ça reste un pays minier qui a beaucoup d'exportations qui vont vers la Chine et vers la Russie, d'ailleurs. Pas seulement du charbon, de l'acier, des métaux rares, etc. Tout ça mettrait par terre complètement l'équilibre économique du régime et le ferait imploser.
Pascal Daillé-Burgeon, il reste des marges de manœuvre en termes de sanctions. Si ce n'est des marges de manœuvre, en tout cas voilà, des leviers qui permettraient vraiment de ramener la Corée du Nord vers davantage, je ne vais peut-être pas dire de raison, mais enfin en tout cas de modération sur le plan militaire.
C'est difficile à dire parce qu'il me semble que le régime est intégralement fondé sur l'idée de résistance. Au fond, c'est une guérilla. Il est né dans la guérilla anti-japonaise et il continue dans la guérilla, disons, anti-américaine actuellement. Donc, la variable d'ajustement des sanctions ne fonctionne pas véritablement. Le peuple est prêt à souffrir. Il a souffert considérablement lors de la famine de 95-97. Ça a renforcé les dirigeants. Il est prêt encore à souffrir. Il y a une sorte d'acceptation par la population qui, de toute façon, est montagnarde, âpre, qui a toujours lutté contre toute une série d'envahisseurs depuis le début de la Corée, pratiquement, à une résistance à l'invasion, aux pressions et aux pressions étrangères. Je crois que le régime joue extraordinairement de cela. Il est prêt à endurer des choses extrêmement dures, beaucoup.
Ah, alors on a à nouveau perdu Pascal Daillé-Burgeon. Je crois que c'était votre dernière intervention de la soirée, malheureusement, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de discuter avec Bruxelles. Sophie Boisseau-Durocher.
Oui, je crois que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que avec l'Asie du Nord-Est comme avec l'Asie du Sud-Est, la Chine travaille énormément à renforcer les interdépendances. Elle y travaille et de toute façon les interdépendances se renforcent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une intensification des flux de personnes, des flux économiques, des flux de trafic qui impacte d'une façon ou d'une autre sur la tenue des négociations. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est de voir que, en dépit de des conflits qui sont très forts, en dépit de ces abcès sécuritaires dont on vient de parler, il y a en permanence des flux qui se renforcent. Et donc, aujourd'hui, des pays comme les Philippines ou comme le Vietnam, surtout, sont pris en tenaille, si vous voulez, par la Chine, entre cette attractivité économique et puis en même temps des principes politiques qui sont très forts parce que le nationalisme est exacerbé dans cette région, mais qui en même temps a du mal à suivre, si vous voulez, le rythme des interactions.
Mais est-ce que ce sont des interactions économiques qui sont mises en place pour servir des intérêts politiques, ou bien est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est une stratégie politique qui est mise en place pour servir des intérêts économiques, Sophie Boisseau-Durocher ?
Écoutez, les deux, sincèrement les deux. Et la Chine ne dirige pas, ne contrôle pas toutes ces interactions. Hein. Elle est parfois prise elle-même, elle est parfois surprise, je dirais, de la densité ou au contraire de certains ralentissements. Donc il y a effectivement les deux et il est difficile de faire la part des choses.
François Gonnement.
C'est une région qui a réussi à sauter à une intégration, une interdépendance économique et même humaine, quand on voit les mouvements de touristes ou les étudiants de Corée du Sud en Chine, sans pour autant sauter ce qu'on pourrait appeler l'étape westphalienne ou des états modernes. Et même à certains égards, elle est pré-westphalienne, c'est-à-dire que les hostilités ethniques ou communautaires restent très fortes. Et donc, nous, on nous explique toujours que l'intégration commerciale, les échanges humains, c'est un facteur de paix. Je ne vais pas vous dire que c'est un facteur de guerre, mais les deux se déroulent côte à côte, notamment, bien sûr, autour de la péninsule coréenne.
Est-ce que c'est ce qui peut aussi créer une forme d'embarras de la part des États-Unis, de se retrouver finalement à une configuration à laquelle ils n'ont pas ou plus l'habitude de se confronter ?
On leur demande d'être garants, mais pas trop. Ils servent de contre-assurance prise par ces pays, d'ailleurs également par le Japon, si vous voulez. Mais l'économie coréenne et japonaise a énormément à voir avec l'économie chinoise. Vous êtes en Corée du Sud, je crois qu'il y a 1300 vols par semaine vers la Chine. Donc on ne peut pas dire que les échanges humains n'existent pas, si vous voulez. Et les États-Unis eux-mêmes savent bien qu'ils peuvent être mis en avant, littéralement, pour servir de bouclier, mais qu'en même temps, ces pays-là ne vont pas nécessairement les suivre au-delà d'un certain point. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas d'ailleurs une poudrière. Oui, c'est peut-être
un statu quo
précaire contre l'argument que cette région achète plus d'armes que n'importe quelle autre région de la Terre. La Corée du Sud a un budget militaire qui est égal à celui de la France en termes d'équipement. La Chine a le deuxième budget militaire mondial, le Japon le quatrième.
On peut parler d'escalade militaire d'ailleurs pour la région aujourd'hui.
Sur le plan de course aux armements, oui, bien sûr. Alors, et dire qu'avant la guerre de 14, c'était pas encore la guerre de 14. Mais d'un autre côté, l'interpénétration est très forte aussi, si vous voulez. La médiation, le rôle des États-Unis sur le plan extérieur pour rétablir l'équilibre sont très forts. Donc pour l'instant, ça tient.
Finalement, dans ce que vous racontez l'un et l'autre ce soir, c'est que on n'est pas du tout dans une logique bloc contre bloc. Peut-être que c'était comme ça d'ailleurs que Barack Obama avait imaginé la réorientation de sa politique étrangère, disant qu'il faut se retourner vers le Pacifique, mais en essayant d'avoir un certain nombre d'alliés pour peser face à la Chine. Or, manifestement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, Sophie Boisseau-Durocher.
Eh ben oui et non. Il vient d'inviter à Sunnyland, justement en Californie, les dirigeants de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. C'est aussi précisément pour montrer qu'ils sont encore là, qu'ils sont encore très présents et qu'ils ont un impact sur ce groupe économique et politique qu'est l'ASEAN. Donc les jeux ne sont pas faits, mais ce qui est sûr aussi, c'est que les États-Unis s'interrogent sur les transformations induites par cette montée en puissance chinoise et finalement, plutôt que de s'accrocher peut-être à des normes et des valeurs qui ont structuré le monde international, l'espace international depuis 60 ans, eh bien, pourquoi pas renégocier avec la Chine de nouvelles bases.
Il y a quelques mois ou quelques années de cela, enfin c'est assez récent, on évoquait un éventuel conflit militaire entre les États-Unis et la Chine. J'aimerais savoir si vous considérez que c'était quelque chose de totalement illusoire. Et je me souviens avoir lu à l'époque qu'on disait que si un conflit militaire devait éclater, on se retrouverait dans une situation assez originale, à savoir qu'une partie, on va dire, de la dette des États-Unis étant possédée par les Chinois, finalement, les États-Unis devraient financer leur guerre avec des capitaux chinois, François Godemont. Ce qui montre là aussi, enfin, l'interpénétration en tout cas des deux économies.
C'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas au conflit, c'est qu'il y a une interdépendance du créancier et des débiteurs qui reste forte. Par contre, les États-Unis sont aujourd'hui plus durs vis-à-vis de la Chine, notamment sur le plan monétaire, moins accommodants. Et Obama termine son mandat moins proche de la Chine qu'il ne l'avait commencé. Mais aucune comparaison, bien sûr, avec l'attitude de la même administration vis-à-vis de la Russie, qui est beaucoup plus ferme. Quant à savoir comment un conflit pourrait commencer, le plus clair, le plus évident, c'est le dérapage. Parce que cette maîtrise dont j'ai évoqué de la Chine, de contrôler jusqu'où elle peut aller, de ne pas franchir la ligne rouge, etc., elle est quand même fragile au fur et à mesure qu'on déploie des armements, au fur et à mesure qu'on tente des opérations de plus. C'est là qu'est le danger principal. Il y a aussi le risque qu'un allié junior des États-Unis, même le Japon est un allié junior, ou les Philippines, se disent que mieux vaut nous déclencher pendant qu'il n'est pas trop tard, pendant qu'on le peut encore, si vous voulez, et entraîner l'allié américain. C'est possible aussi, ce sont des scénarios. Mais enfin, jusqu'ici, disons quand même les choses, je pense que sur toute la mer de Chine, il y a eu 50 morts en 30 ans. On n'est pas en Syrie, on n'est pas en Libye.
Juste d'un mot, Sophie.
On est même pas en Ukraine.
Oui, même pas en Ukraine. Sophie Boisseau-Durocher, juste d'un mot, vous venez de signer sur le site de l'IFRI un article consacré à la coopération scientifique en mer de Chine méridionale. Oui. Est-ce que la coopération donc scientifique, ça peut être aussi un facteur de pacification?
C'est prétendu être un facteur de pacification, une espèce de pont fonctionnel. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que cette coopération scientifique sert évidemment les intérêts chinois et elle sert surtout à mieux connaître cette mer sur laquelle la Chine a des prétentions, a des revendications, comme elle dit, inaliénable, historique et inaliénable. Donc, en fait, on se rend compte que les pays d'Asie du Sud-Est ne peuvent refuser l'offre de coopération, puisqu'elle est s'y opposer serait un pris comme un geste de tension. Et en même temps, cette coopération sert finalement les intérêts chinois. Donc, ça, c'est toute l'ambiguïté précisément du système chinois.
C'est quasiment la fin du Grain à Moudre et comme chaque fin de semaine, nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec le responsable de ces pages, François Armanet. Bonsoir François.
Bonsoir.
Et cette semaine, dans les pages débat de l'Obs, notamment, c'est ce qui fait l'ouverture d'ailleurs de ces pages, deux ouvrages consacrés à Adolf Hitler.
Ben oui, deux documents qui sont réédités et qui dévoilent la personnalité du Führer, qui est toujours en tout cas très entouré de mystères. Donc en fait, il y a deux livres. Il y a un premier livre d'André François Poncet, qui était ambassadeur à Berlin entre 31 et 38, et qui est l'un des rares diplomates à avoir vraiment fréquenté de près Hitler. Et puis il y a aussi un autre ouvrage qui sont les propos intimes et politiques tenus en 41-42 par Hitler. En fait, c'est un recueil de paroles prononcées par Hitler devant ses fidèles, et qui ont été prises en note et archivées par Martin Bormann. Alors, à propos de ces deux ouvrages, ça nous permet en tout cas d'essayer d'affiner ce qu'on pense d'Hitler. Est-ce que c'est un illuminé? Est-ce que c'est un fin tacticien? C'est vrai que sa personnalité est toujours en débat. Alors, André François Poncet, donc l'ambassadeur de France en Allemagne, le résumé en un mot, c'est un homme tel que Hitler ne tient pas dans une formule simple. Mais il l'a fréquenté de près, et là je cite François Poncet, qui s'étonne de la vulgarité de ses traits, de l'insignifiance de son visage, mais tout changeait lorsqu'Hitler s'emporte. François Poncet écrit, coloré, transporté par la passion, les narines palpitaient, l'appétit de domination, l'impatience de toute contrainte, la haine de l'adversaire, une audace cynique, une énergie féroce, prête à tout renverser, un visage forcené. Voilà un portrait donc rarement dépeint d'aussi près. Et puis quand on ajoute en tout cas ce qu'on retient de ces propos intimes recueillis par Martin Bormann, donc là je cite nos Allemands, et là c'est l'essentiel, évidemment il cite Hitler, devront former une société cadenassée comme une forteresse. Le dernier de nos palefreniers doit être supérieur à tout indigène de la périphérie. Ben voilà qui nous rappelle des choses aujourd'hui, enfin en tout cas qui résonnent de manière toujours inquiétante. Et dès septembre 41, Bormann notait qu'Hitler disait « Ordre de liquider tout ce qui se trouve dans les camps de concentration, Les animaux qui peuplent nos camps méritent la mort. Donc, j'espère qu'on voit l'actualité, en tout cas du dossier qu'on a consacré à ces deux livres.
Et on la voit l'actualité. Merci beaucoup François Armanet. C'est donc à retrouver dans les pages débat de l'Obs de cette semaine. Un grand merci à Sophie Boisseau-Durocher, à François Godemont et à Pascal Daillé-Burgeon qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus longuement. Mais voilà, les liaisons téléphoniques ce soir entre Paris et Bruxelles étaient particulièrement compliquées. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain. Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Hugo Florent. Réalisation Jean-Christophe Francis à la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan. Demain, vous le savez peut-être, journée spéciale sur France Culture. Syrie, la guerre qui change le monde. Dans le cadre du Grain, nous nous demanderons ce qu'il reste du printemps syrien. Tout de suite, c'est ping-pong. Bonsoir Mathilde et bonsoir Martin.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé, cette fois-ci en studio séparé. Tout de suite, on déhousse les raquettes.